Je voudrais d'abord dire mon admiration pour les deux exposés que je viens d'entendre. Il y a là-dedans des informations, il y a des idées forces, il y a des perspectives, et pour une part, ça va inspirer ce que je vais dire, parce que ce que j'ai préparé, mais ça ne tiendrait raisonnablement qu'en 5 ou 6 heures. Donc, il faut que je fasse un tri raisonnable et je le ferai un petit peu en fonction de ce que je viens d'entendre. Mais le tri doit aussi être fidèle au résumé que j'ai proposé. Alors, et au titre. Le titre, c'était l'influence des ordinateurs et de l'informatique sur les mathématiques et leur enseignement. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que je parlais de réflexion sur 20 ans? C'est parce que il y a ici un petit bouquin et qui s'appelle en anglais justement l'influence des ordinateurs et de l'informatique sur les mathématiques et leur enseignement. Les Anglais n'étaient pas très chauds pour l'utilisation du terme de informatics à l'époque. Et puis ils y sont venus, parce qu'il y a quand même les deux faces de l'informatique. Il y a les ordinateurs, il y a le traitement des données, et maintenant, le terme a pénétré. Alors, je situerai un petit peu ce qu'il y a là-dedans et le contexte. Et j'essaierai de dire comment je vois l'évolution sur 20 ans. Et l'évolution, elle se manifeste par des quantités de choses. Mais comme l'origine de ce bouquin, c'était l'enseignement, c'était une production de la Commission internationale de l'enseignement mathématique. Alors je me référerai aussi à une production récente, qui est celle de la Commission française de réflexion sur l'enseignement des mathématiques, avec comme premier chapitre du livre de rapport qu'elle a présenté, justement l'informatique. Si je dois résumer mon propos, c'est en me référant à ce que voulait être cette étude. Cette étude était donc une étude de la Commission internationale de l'enseignement mathématique et c'était la première étude de ce type et c'était sur des sujets qui apparaissaient comme à l'ordre du jour, des sujets vifs en ce qui concerne l'enseignement. Et le propos était un peu particulier, puisque ça ne commençait pas par l'enseignement. Le premier propos, c'était dans quelle mesure les ordinateurs et l'informatique influencent les idées mathématiques, les valeurs et les avancées de la science mathématique. Le deuxième point, c'était comment est-ce que des nouveaux cursus peuvent être définis pour faire face aux nécessités et aux possibilités qui changent. Je suis hésitant dans mon élocution parce que je suis en train de traduire de l'anglais, n'est-ce pas? Et le troisième propos, c'est comment l'usage des ordinateurs et des calculatrices peut aider l'enseignement des mathématiques. Alors, ce qui était propre à une commission d'enseignement, c'était les deux derniers points. Ce qui était provocateur dans le rapport à l'époque, c'était l'influence de l'informatique sur les mathématiques. Je m'en expliquerai dans un instant, parce que maintenant, les choses apparaissent comme complètement évidentes à cet égard. Et d'une certaine façon, elles étaient évidentes il y a 50 ans aussi. Mais il y a 20 ans, elles n'étaient pas évidentes. Et ce qui était, par contre, pour nous complètement évident, c'est que les ordinateurs, les calculettes et l'informatique avaient déjà changé le point de vue dans l'enseignement des mathématiques et allaient le faire de façon impétueuse. Or, nous en sommes, pour ainsi dire, au même point qu'il y a 20 ans à cet égard. Nous commençons à faire les premiers progrès. Comment est-ce que les ordinateurs peuvent être utilisés dans l'enseignement des mathématiques? Là, il y a eu des progrès assez raisonnables, mais je n'en parlerai pas trop, parce que, comme ça nous a été indiqué dès le départ, les aspects conceptuels me paraissent plus importants ici à discuter que les accès et que les aspects simplement d'utilisation des outils. Alors, je voudrais situer un petit peu l'étude de Strasbourg 1985 et qui est exprimée dans ce bouquin. Qu'est-ce que c'est que la Commission internationale de l'enseignement mathématique? C'est une vieille commission qui a été créée sous la présidence de Félix Klein, un grand mathématicien allemand, il y a un siècle, et qui a été la première commission de l'Union mathématique internationale, qui s'est fondée après, d'ailleurs, la commission. L'Union mathématique internationale, en 1982, était présidée par un mathématicien suédois, Lennart Carlsson, et elle avait pour secrétaire Jacques-Louis Lyons, dont on a entendu parler tout à l'heure. Les deux avaient le souci que les mathématiques tiennent compte du développement de l'informatique. Et dès 1982, à côté des médailles Fields, dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu un prix Nevanlinna donné par l'Union mathématique internationale pour l'informatique théorique et les mathématiques proches de l'informatique. Donc le prix Nevanlinna est un prix prestigieux et qui manifeste la présence de l'informatique au sein des mathématiques. Mais là, il faut que je m'explique sur informatique au sein des mathématiques. Parce que au départ, c'est vrai que l'informatique est née, comme Marie-Christine Roussel nous l'a dit, à partir de travaux de mathématiciens, mais elle s'est affranchie ensuite comme discipline autonome. Et précisément, c'est parce que c'est devenu une discipline autonome qu'il y a 20 ans, il se posait le problème assez aigu de la reconnaissance de l'informatique comme discipline autonome de la part des mathématiciens. Et en même temps, il se posait le problème permanent du lien entre l'informatique et les mathématiques. Pour la Commission internationale de l'enseignement mathématique, avant 80, elle était un peu en sommeil, organisant cependant, tous les 4 ans, un congrès international de l'enseignement mathématique depuis 69, qui était un lieu de rassemblement des didacticiens, des mathématiciens, des gens intéressés par l'enseignement des mathématiques. Mais il est apparu que des études sur des sujets spécifiques étaient bienvenues. Et maintenant, on doit en être à la 20e étude à peu près de cette commission. Mais la première, ça a été sur le sujet que je vous ai dit. Et pour moi, il est nécessaire à ce stade de revenir très loin en arrière. Parce que en 80, comme je vous l'ai dit, il pouvait y avoir de la part de certains mathématiciens, il y avait en fait de la part de certains mathématiciens, une ignorance complète de ce que l'informatique avait déjà apporté et allait apporter aux mathématiques. Or, c'est une chose qui m'a été révélée avant que l'informatique existe. Elle m'a été révélée en 1948 par une conférence d'un biologiste, biométricien, mathématicien aussi, anglais, un homme de grande stature, Haldane. Haldane avait connu Turing, naturellement. Haldane faisait une conférence organisée par les Sévriennes sur l'évolution. L'évolution en biologie, naturellement. Et ce que j'en ai retenu, c'est les quelques mots qu'il a dit sur l'évolution des mathématiques. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour lui, les machines à calculer qui venaient d'apparaître allaient changer la donne en ce qui concerne non pas l'exécution des travaux mathématiques, mais les concepts mathématiques eux-mêmes. Et il a attiré l'attention, mais depuis, j'ai tellement réfléchi à la question que je me demande s'il n'est pas un petit peu orné ce que Holden disait. Mais sur le lien entre les moyens d'écriture et les moyens de calcul et les concepts en mathématiques pures. Bon, si je veux remonter à la Grèce ancienne, les Grecs ont fait faire des progrès gigantesques à la géométrie. Ils ont fondé la géométrie plane comme théorie axiomatique. Mais ils ont été un peu handicapés dans le développement de la théorie des nombres. Ils ont été un peu handicapés dans les nombres. Est-ce que ce n'est pas en relation avec la manière dont ils écrivaient les nombres? Quand Socrate s'adresse à Hippias, le grand sophiste de l'époque, il lui demande « Toi, Hippias, qui es si savant et si rapide, est-ce que tu pourrais me dire avec la plus grande justesse et la plus grande célérité combien font 3 fois 700 ?» Et Hippias ne lui répond pas « Ça fait 2100 ». Hippias lui répond « Oui, je le saurai ». Bon, il y a là-dedans un peu d'ironie sans doute. Mais c'est que les systèmes de numération des Grecs n'étaient pas très fameux pour les moindres calculs. En ce qui concerne l'écriture des nombres décimaux à la suite de Cévin au XVIe siècle, ça a préludé à la découverte par Néper des logarithmes. Et pour moi, ça a été toujours frappant que la découverte par Néper des logarithmes, les logarithmes népériens, ça a été pratiquement concomitant avec la tabulation des logarithmes. La tabulation, ben, c'était le résultat de l'imprimerie. Il fallait bien qu'il y ait des tables imprimées pour qu'on puisse se servir effectivement des logarithmes. Et du même coup, on a tabulé les sinus et les cosinus et ainsi de suite. Et la navigation a profité de toutes les fonctions mathématiques qui étaient tabulées. Et du coup, ce qui est apparu comme premier concept de fonction en mathématiques, ça a été effectivement les fonctions qu'on pouvait tabuler. En dehors des polynômes, disons, et des fractions rationnelles, ce dont on disposait, ben, c'était les logarithmes, les exponentielles, les sinus, les cosinus, les fonctions qui étaient sur les tables. Et puis on a enrichi les tables au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Il n'y avait plus seulement les fonctions élémentaires, mais il y avait les fonctions spéciales. Et à ça ont répondu les mathématiques élémentaires et les mathématiques spéciales. L'idée de la résolution d'une équation, eh bien, ça a été longtemps, en ce qui concerne les équations numériques, la résolution par radicaux, en se ramenant donc à un concept très simple de fonction, et longtemps, pour les équations différentielles et les équations intégrales et toutes les équations fonctionnelles, la résolution en termes de fonctions connues. Et les fonctions connues, c'était les fonctions tabulées. Et ce que disait, alors là, à coup sûr, Haldane, c'est désormais, résoudre une équation, ça va être trouver un algorithme de calcul rapide, aussi bien pour les équations numériques que pour les équations fonctionnelles. Mais pour les équations fonctionnelles, ça signifie donc qu'au lieu de chercher à résoudre en termes de fonctions connues, eh bien, on cherchera à avoir des solutions approchées et à avoir des convergence, avoir des algorithmes efficaces. Il est clair que ce concept de fonction répondait alors à un concept de fonction introduit déjà en mathématiques depuis un siècle, mais qui n'était pas le concept, disons, ni des topins ni des ingénieurs. C'était le concept général de fonction. Et en ce qui concerne l'analyse, j'étais normalien à l'époque et j'étudiais l'analyse qui se révélait à moi et qui n'était pas l'analyse de taux, c'était précisément la théorie des approximations, c'était la théorie des espaces fonctionnels dans lesquels les points représentent des fonctions, et je retrouvais avec volupté, dans les perspectives décrites par Haldane, la valorisation de ce que les mathématiciens purs avaient pu apporter depuis le début du XXe siècle. Bon, vous voyez, je m'appesantis un tout petit peu sur les souvenirs, là. Mais je suis déjà un peu dans le cœur du sujet. C'est-à-dire comment les concepts des mathématiques peuvent être influencés par le développement des outils. J'ai parlé du développement de l'écriture, du développement du calcul, mais pour le développement du traitement des données, eh bien là, des perspectives très considérables nous ont été décrites tout à l'heure par Marie-Rysine Blanchet et par Laure Reinhardt. Et alors, ce qui est aussi assez curieux, n'est-ce pas, et qui ne se manifestait pas en 1948, mais qui s'est manifesté ensuite, c'est que le vieux concept de fonction, les fonctions élémentaires, les fonctions tabulées, la résolution en termes finis d'équations par des fonctions élémentaires, par des superpositions de fonctions élémentaires, ce qu'on s'est exercé à faire en taupe avec le PIF, hein, ce que Liouville, en 1830, avait essayé de formaliser, hein, en cherchant des critères de résolution d'équations fonctionnelles pour qu'on puisse effectivement accéder à des solutions en termes finis. Ça avait été un classique de l'enseignement français de 1830 à 1880, et ça avait disparu ensuite parce qu'il y avait des choses nouvelles. Et puis ça n'apparaissait pas comme, a priori, un acquis à venir des ordinateurs. Eh bien si, ça l'a été, évidemment. Parce que l'informatique actuelle, c'est pas seulement le calcul numérique, c'est le calcul symbolique. Et le calcul symbolique a complètement revalorisé ce qui avait été fait par Liouville en termes de résolution, en termes finis. Et à l'heure actuelle, si vous proposez une équation fonctionnelle extrêmement compliquée à un programme d'ordinateur, il sera capable de vous dire, oui, il y a ou non une résolution en termes finis. Les algorithmes sont bien au point. Donc, à la fois, l'ordinateur a changé le point de vue qu'on pouvait avoir sur les fonctions, et en particulier les fonctions élémentaires, et il a, dans une phase suivante, restauré ce que nous pouvions considérer comme périmé à une époque, c'est-à-dire la notion de solution en termes de fonctions élémentaires. Si je me réfère à l'aspect institutionnel, l'informatique, je me souviens que dans le rapport de conjoncture établi par Jacques-Louis Lyons, quand il était président de la commission de mathématiques du CNRS, il y avait la nécessité d'introduire l'informatique comme sujet de recherche. Et ça avait été suivi immédiatement, puisque lorsque Jacques-Louis Lyons a quitté la présidence de la commission avait changé de nom, c'était la commission mathématiques et informatique. Et le premier président de cette commission, c'était un informaticien, c'était Claude Picard. Donc les informaticiens sont quelquefois malvenus à dire que les mathématiciens ont dédaigné l'informatique au départ. Ça n'est pas vrai. Les mathématiciens les plus en vue et les plus responsables ont précisément été des accoucheurs de l'informatique. Mais il est vrai que quand l'informatique a commencé à voler de ses propres ailes, il y a eu des incompréhensions et des oppositions. Et avec cette différenciation entre l'informatique et les mathématiques, sont venues les incompréhensions dont j'ai parlé et qui existaient bien dans les années 80, puisqu'à ce moment-là, il s'agissait de rectifier, ne fût-ce que pour les mathématiciens eux-mêmes, les perspectives que l'informatique pouvait apporter. Alors, ce que l'informatique a apporté au développement des mathématiques, c'est si gigantesque que, justement, mes 5 heures n'y suffiraient pas. Alors, je me borne à quelques spots là-dessus. Les nombres premiers. Une chose propre aux mathématiques, c'est que les choses les plus anciennes, elles sont toujours valables. Les nombres premiers d'Euclide sont toujours nos nombres premiers. La démonstration d'Euclide qu'il existe une infinité de nombres premiers, ça reste l'une des plus belles démonstrations qu'on puisse donner comme exemple de démonstration mathématique. Mais au-delà, naturellement, l'étude des nombres premiers a beaucoup changé en fonction des moyens de calcul et des perspectives. La répartition des nombres premiers, c'est un sujet mathématique fascinant, et dans les grands prix qui sont donnés, là, en mathématiques, il y a des prix qui sont donnés pour les hypothèses non prouvées en ce qui concerne les nombres premiers, que ce soit l'hypothèse de Riemann sur la répartition asymptotique des nombres premiers, ou bien, plus facile à exprimer, l'hypothèse qu'il existe une infinité de nombres premiers jumeaux, comme 11 et 13, ou bien l'hypothèse que tout nombre pair à partir d'un certain rang est la somme de nombres premiers. Mais le regard que nous avons maintenant sur les nombres premiers, il a complètement changé avec la possibilité de dire si de très grands nombres sont des nombres premiers et le problème de savoir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Le premier problème, savoir si un très grand nombre est un nombre premier, est considéré par les gens qui s'occupent de cette question comme un problème résolu. Il est résolu par des méthodes très curieuses, faisant appel d'une part à des vieux théorèmes, ce qu'on appelle le petit théorème de Fermat, mais qui, à mon avis, est le plus grand, c'est-à-dire que quand on a un nombre premier P, si on prend une puissance Pm, la puissance Pm du nombre A, elle est égale à petit a modulo P, c'est-à-dire quand on fait la division par P, eh bien, on obtient la même chose que quand on divise A par P. Eh bien, ceci, rien que ça, est un moyen de démentir qu'un nombre est un nombre premier. Parce que si on fait A puissance P, ce qui est modulo P, ce qui est facile à faire par ordinateur, et puis si on ne tombe pas sur un modulo P, ben, c'est que le nombre n'est pas premier. Eh bien, c'est par une batterie de tests de cette nature qu'on a maintenant les tests de primalité qui donnent la certitude, ou la certitude d'approcher, qu'un nombre est premier. On considère que c'est un problème essentiellement résolu, et comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est un problème du type P. Il est résolu, il y a un temps polynomial en fonction du nombre de données. Par contre, le candidat type au problème NP, dont a parlé Marie-Christine Roussel tout à l'heure, eh bien, c'est la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que les problèmes de codage et de cryptographie reposent sur les nombres premiers très grands et leurs produits très grands aussi, mais qu'on est incapable de décomposer pour le moment en facteurs premiers. Et si on est capable, avec des nombres de 20 chiffres, eh bien, on ne sera pas capable avec des nombres de 50 chiffres. Mais ça, justement, c'est un problème. Et les aperçus que Marie-Christine Roussel donnait sur l'informatique quantique pourraient effectivement changer la donne, même si l'informatique quantique n'aboutissait pas à des réalisations concrètes. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais on pourra en dire beaucoup. Pour moi, une trace de cette nouvelle façon de voir, ça a été une révélation assez bouleversante pour moi. Ça a été le livre de Mazur. De Mazur a été professeur ici. Il a été professeur à l'École polytechnique. Et ça a été l'un des responsables de Bourbaki au cours, quand il était jeune. Donc, c'était, disons, à la fin des années 60 et 70. Eh bien, De Mazur, qui a donc été formé dans l'esprit bourbakiste, a fait un cours d'algèbre pour l'École polytechnique qui a été édité, je crois que c'est en 95, et qui est un cours d'algèbre complètement inspiré par l'informatique. C'est-à-dire, tous les problèmes qu'il pose sont des problèmes qui sont susceptibles de résolution, il donne des programmes, et c'est comme ça qu'il introduit les notions les plus abstraites d'algèbre. Donc, de la part des mathématiciens eux-mêmes, et De Mazur est un exemple qui pour moi est typique, changement d'attitude. Dans mon domaine, l'analyse de Fourier, alors là, je pourrais parler 3-4 heures, évidemment. L'analyse de Fourier, bon, comme le nom l'indique, ça a été fondé par Fourier. Mais Fourier voulait représenter des fonctions, même très bizarres, par addition de sinus et de cosinus, d'arcs multiples. C'était considéré comme une entreprise impossible à son époque. Et puis il a prouvé par l'action que c'était possible. Et pour lui, sa motivation, c'était à la fois de coller à la physique et d'arriver à des procédés de calcul tout à fait explicites. En cela, Fourier et sa philosophie ont été assez absentes de la culture mathématique française. J'en veux pour exemple qu'il n'y a pas d'article Fourier dans Encyclopædia Universalis de l'édition que j'ai, 1974. Oui. Alors, Fourier n'était pas considéré comme un grand homme à cette époque. Et maintenant, non seulement le nom de Fourier a envahi toute la littérature scientifique, mais c'était déjà le cas il y a 30 ans, mais encore l'esprit de Fourier, c'est-à-dire le rapprochement des mathématiques et de la physique d'un côté, le rapprochement des mathématiques et des moyens de calcul de l'autre. Et s'il y a une chose à citer dans l'analyse de Fourier contemporaine qui a tout envahi des disciplines scientifiques, c'est la transformée de Fourier rapide, qu'on appelle Fast Fourier Transform, et qui est le moyen de calculer une transformée de Fourier simplement en abrégeant le temps de calcul, passé d'un ordre de grandeur n carré en fonction du nombre des données, en un ordre de grandeur n logarithme de n. Chaque fois qu'on fait des progrès de cet ordre, qui sont des progrès qui peuvent apparaître comme techniques, il s'ensuit des bouleversements dans les méthodes de calcul. C'est comme ça que les astrophysiciens, il y a déjà 30 ans, ont découvert les anneaux de Saturne. Mais maintenant, je ne peux pas décrire les applications de la transformée de Fourier rapide parce qu'il y en a partout. On ne peut s'en passer dans aucune discipline qui exige des données et des calculs. Mais l'avatar le plus nouveau de l'analyse de Fourier, c'est les ondelettes. Les ondelettes que Arnaudo, mathématicien impliqué, appelle un zoom intellectuel, n'est-ce pas? Ça se relie à l'idée du changement d'échelle que vous aviez abordé. Et d'une part, les ondelettes, ça a permis un rassemblement autour de concepts mathématiques extrêmement simples, d'ingénieurs, de physiciens, de mathématiciens. Ça a permis d'intégrer toute une partie de la théorie du signal, et en particulier de ce que faisaient les ingénieurs de télécommunications, à d'autres parties des mathématiques ou de la théorie de l'information. Et maintenant, c'est à la base de réalisations techniques qui sont d'usage courant. Le JPEG, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais ça consiste à découper un écran en morceaux pour avoir des images partielles qui se raccordent. Le JPEG 2000, c'est, au lieu de morceaux, utiliser des ondelettes. Et le dernier avatar du JPEG, c'est un procédé pour la reconstitution non pas des surfaces mais des lignes qui a été mis au point par un élève de Yves Meyer, Stéphane Mala, et qui constitue une économie gigantesque pour la reproduction, par exemple, des traits d'un visage. De sorte que maintenant, les puces qui vont être utilisées pour la sécurité dans tous les pays du monde vont emprunter les nouveaux avatars des ondelettes, qui sont ces espèces d'ondelettes oblongues et qui ont été définies. Donc, leur histoire, ça serait encore une belle histoire à raconter, mais je ne veux pas. Mais il est clair que ça, ce n'est pas simplement des concepts nés de l'esprit de mathématicien. Ça n'a de possibilité même de naître dans l'esprit de mathématicien que parce qu'il y a la réalisation, l'implémentation possible comme programme informatique. Bon, là, je vais passer vite, alors, juste à la louche, les fractales. Hein, bon, j'aurais pas de fractales s'il n'y avait pas de moyen de les représenter. Et les moyens de les représenter, c'est l'informatique graphique. Les systèmes dynamiques, grande branche des mathématiques, où se rejoignent le continu avec les équations différentielles et le discontinu avec l'itération des opérations. Et on voit que le privilège maintenant donné à l'itération des opérations, c'est que c'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser en machine. Et du coup, ça a ressuscité des problèmes anciens qui avaient été un peu ensevelis. L'informatique a ça de particulier en mathématiques, c'est que ça fait ressurgir, plus que n'importe quoi, des problèmes. J'ai signalé les nombres premiers, j'ai signalé Liouville, et bien maintenant, c'est Fatou et Julia, les travaux des années 1920, qui étaient tombés dans l'oubli et qui sont ressurgis, n'est-ce pas, avec l'exploitation qu'on a faite de Benoît Mandelbrot et ensuite les magnifiques travaux qu'il y a eu là-dessus en mathématiques. La robotique, robotique et vision, les travaux sur la robotique renouvellent. Alors là, des choses qui étaient des programmes de taupe d'il y a 50 ans, mais qui avaient tendance à disparaître. C'est la géométrie projective. Ça, c'est assez naturel, parce que quand on a deux capteurs ou trois capteurs pour regarder ce qui se passe et son évolution, eh bien, ça signifie on a des images sur des plans projectifs et il s'agit d'en retirer une image spatiale. Bon, mais la robotique actuelle, c'est de mettre les capteurs sur les robots. Et du coup, ils se déplacent en même temps que les robots. Et alors, il n'y a plus de repère fixe. Ah ben si, il y a quand même quelque chose de fixe, c'est les droites isotropes, celles qui aboutissent à l'ombilique, qui est la courbe imaginaire, qui est l'intersection de toutes les sphères à l'infini. Alors, ça paraît de la blague, cette histoire-là, mais non. Les travaux de Fausras à Nice, qui sont de très grandes conséquences pour la robotique, s'est fondé sur le repérage, disons la géométrie projective complexe. Hein bon. Et la géométrie algorithmique, c'est une chose qui se développe en ce moment de façon impétueuse. Les réseaux. Bon, alors, c'est pas la peine que j'essaye de faire un catalogue de tout ce qui est nouveau. Je voudrais conclure avec deux idées. Une idée, c'est sur l'évolution de notre conception des mathématiques. La deuxième idée, c'est une idée sur l'évolution de l'enseignement des mathématiques et les débouchés des mathématiques. La première idée, c'est que c'est dans cette salle que j'en parlais il y a quelque temps. Quand on a construit le bâtiment de mathématiques à Orsay, en 1963, il s'est appelé mathématiques au singulier. Dans les années 70, le bâtiment de mathématiques au singulier a abrité les premières mathématiques appliquées à Orsay, probabilité et statistique, analyse numérique. À ce moment-là, il y avait mathématiques pures et mathématiques appliquées. Puis au courant des années 80, j'ai parlé des ondelettes, quand les ondelettes sont apparues, quand la cryptographie est apparue, il y a eu une RCP du CNRS qui s'est appelée « Application des mathématiques pures ». Le concept de mathématiques appliquées ne peut avoir de valeur que si on le considère comme un regard sur les mathématiques à faire. Mais ce sont les mêmes mathématiques, les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Et ce que camoufle le terme de mathématiques appliquées, c'est que le lien des mathématiques aux autres sciences, aux techniques, au réel, ce n'est pas simplement d'irriguer, c'est aussi de s'alimenter. Les mathématiques, c'est aussi un apport de Fourier, hein, mais un apport de toute son époque. Elles s'alimentent de la physique, elles s'alimentent de la technique, etc. Et à l'heure actuelle, non seulement elles s'alimentent de ça, mais c'est ce qui, je crois, peut dénouer ces crises de confiance entre informaticiens, mathématiciens, quelquefois physiciens. Il faut que les mathématiciens reconnaissent à d'autres que les mathématiciens aient étiqueté mathématiciens, à ceux qui s'appellent informaticiens, à ceux qui s'appellent physiciens, quelquefois à ceux qui s'appellent biologistes ou qui s'appellent économistes, dans la partie mathématique de leur activité, dans la création qu'ils font quelquefois de problèmes, de méthodes ou de concepts mathématiques, eh bien, un rôle au sein des sciences mathématiques. Le concept actuel de sciences mathématiques, c'est que c'est un système qui puise, qui distille et qui irrigue. Et là-dedans, ce que nous avons entendu de l'exposé, des deux exposés précédents, c'était absolument clair. De l'informatique viennent des idées qui sont absolument précieuses en mathématiques. P, NP, c'est à la frontière de l'informatique et de la logique, c'est clair. Les problèmes de mathématiques industrielles. Et je voudrais revenir sur une idée exprimée par Lorraine Hart, celle d'équipes mixtes. Ces équipes mixtes, je crois que c'est une voie d'avenir. C'est une voie d'avenir au sein même des équipes académiques. C'est-à-dire, il serait très souhaitable que dans des laboratoires de chimie, on puisse trouver des mathématiciens. Si Hauptmann et Karl ont pu avoir le prix Nobel, ils sont mathématiciens, en 1985, ce n'est pas parce que mathématiciens de l'extérieur, ils s'étaient intéressés à des problèmes de chimie et de cristallographie, c'est parce qu'ils étaient dans des laboratoires de cristallographie et de chimie, au contact avec les problèmes réels. Ils faisaient des mathématiques qui étaient quelquefois un peu culinaires, mais qui ont eu de grandes conséquences pour la chimie. Donc, ça a été des prix Nobel de chimie. Eh bien, à l'époque, il existait une ERCP en France où on étudiait ces mêmes problèmes, mais on les étudiait à part. On n'était pas en équipe mixte. Et ça, c'est une notion forte. Mais je voudrais là poser une question à Lorraine Hart. Pour qu'il y ait équipe mixte entre l'industrie et l'université ou les centres de recherche, alors il faudrait qu'il y ait effectivement des chercheurs industriels, que l'industrie fasse sa place à la recherche et pas seulement à des gens venus de la recherche. Et à ce moment-là, le contact se crée beaucoup plus facilement sans risque qu'il y ait exploitation du capital universitaire ou du capital des organismes de recherche par l'industrie en quête de bons moyens intellectuels. Donc, équipe mixte, pour moi, ça évoque l'idée d'un nouvel essor de la recherche où il y a effectivement beaucoup plus de recherche dans l'industrie. Et j'y reviendrai juste dans un instant. À propos justement de l'enseignement, il y a ces rapports de la commission de recherche sur l'enseignement des mathématiques, où on voit, le premier rapport, c'est l'informatique, et on ne se préoccupe pas du tout dans ce rapport de l'utilisation des outils informatiques. On dit qu'il n'est pas souhaitable que les professeurs de mathématiques deviennent des spécialistes de tel ou tel logiciel, mais par contre, c'est indispensable que les professeurs de mathématiques se chargent d'une partie d'enseignement d'informatique, à savoir celle qui tout simplement revient à l'intérieur des mathématiques. Les algorithmes, eh bien, c'est d'une part fondamental en informatique, mais d'autre part fondamental en mathématiques. L'algorithme d'Euclide, il se trouve chez Euclide, mais ça n'empêche qu'il est extrêmement vivant. Et que exploiter l'algorithme d'Euclide en montrant que selon les procédures c'est plus ou moins complexe, que c'est plus ou moins rapide, c'est déjà extrêmement intéressant. Les fractions continues, ça date des Babyloniens, si on veut bien. Et en tout cas, c'était une question qui était très connue par tous les auteurs de calendriers, mais qui n'est enseignée nulle part. Je ne connais pas de programme de mathématiques, y compris dans l'enseignement supérieur, qui fasse sa place aux fractions continues. Or, les fractions continues, avec la moindre calculette, on peut faire toutes les manips qu'on veut sur les fractions continues. Je ne m'étends pas là-dessus. Il y a 50 pages qui ont été faites par cette commission, qui s'appelle Algorithmique au lycée, sur des sujets que les professeurs de mathématiques sont vraiment bienvenus d'introduire à l'occasion des cours de mathématiques dans cet esprit. C'est donc beaucoup plus que, disons, introduire quelque chose de nouveau, c'est introduire une nouvelle manière de penser aux mathématiques. Et c'est très important. Et en ce qui concerne l'enseignement de l'informatique, il y a quelquefois débat entre mathématiciens, physiciens, informaticiens sur ce sujet. Il y a encore eu un débat récent à l'Académie des sciences, organisé par Maurice Niva. Et je dois dire que je ne suis pas d'accord avec l'optique dans laquelle les choses ont été présentées. Certains informaticiens pensent que l'informatique étant maintenant dans l'enseignement supérieur, doit être aussi dans l'enseignement secondaire et enseigné par des informaticiens. Je dis que ça, c'est reculer, s'inédier l'enseignement de l'informatique. Il y a à l'heure actuelle 50 000 professeurs de mathématiques dans les lycées. Même si on forme des professeurs informaticiens, combien est-ce qu'il y en aura pour enseigner l'informatique? Il faut utiliser le capital intellectuel constitué par les professeurs de mathématiques. Et il faut que les professeurs de mathématiques assurent une partie de cette fonction. Alors, l'enseignement, il se poursuit depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université. Dans l'université, ce qu'il y a de plus avancé, c'est le doctorat. Il y a une association des docteurs et sciences, l'ANDES, et comme je suis membre de l'ANDES, je reçois toutes les communications par informatique sur ce que recherchent en ce moment les docteurs comme débouchés, aussi bien dans le public que dans l'industrie. Et là, c'est le relais de ce que je disais tout à l'heure, et c'est encore une question à Laure Reynard, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne serait pas une aide considérable pour le développement de l'université et des formations qu'elle donne? Mais est-ce que ça ne serait pas une aide considérable pour l'industrie? Est-ce que ça ne serait pas un essor nouveau pour l'industrie française et européenne et mondiale s'il y avait plus de place dans l'industrie pour les docteurs formés par l'université? Et comme nous sommes ici dans une université où la coopération avec tous les pays du monde est très développée et où il y a 7 ans s'est tenu un colloque sur recherche et pays en développement, je voudrais aussi essayer de répondre pour ma part à la question posée par Laure Reynard à la fin de son intervention. Je crois qu'il y a un danger chinois, un danger indien. Et ces dangers, c'est le faible niveau de vie en Inde et en Chine comparé au niveau de vie des pays développés. Mais nous connaissons ce danger puisqu'il existe en Europe même, avec les Polonais, avec les Hongrois, y compris dans la sphère intellectuelle. Est-ce que notre optique, ça ne devrait pas être relèvement rapide de tous les moyens, de tous les niveaux de vie et de tous les moyens de recherche et de promotion intellectuelle dans tous les pays du monde, qui nous permettent à ce moment-là de tenir effectivement une place d'avant-garde?